la poubelle.
Have a good meal.
Moulia bim, pas pour mes seins.
Vous donne appétit. Oustoul.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un légume tout à fait intéressant et pratique, la courgette. Ensuite, nous allons traverser l'Atlantique avec Clarisse, une jeune Bretonne de 18 ans qui a passé plus d'un mois dans une famille à Portland dans l'Oregon. Une famille typiquement américaine, bien que madame fasse de la pâtisserie une activité professionnelle, ce qui n'est effectivement pas la caractéristique de tous les Américains. Nous finirons avec Marie qui aujourd'hui nous parlera de l'utilité et de l'importance de faire des listes de courses.
Oustoul,
Capobet. Have a good meal.
Moulia bim, pas pour mes seins.
Vous donne appétit.
Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, si j'ai bien compris, nous parlons de l'économique et néanmoins succulente courgette.
Eh oui, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la courgette, qui, rappelons-le, est une variété de cucurbitacée. Son nom savant est Cucurbita pepo. C'est une cucurbitacée comme la courge, la citrouille, le potiron, le potimarron. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à confondre un petit peu toutes ces espèces de cucurbitacées. Alors, tout d'abord, comment cultiver et comment se procurer de la courgette? Deux possibilités. La première, c'est de la semer soi-même. Et la deuxième, c'est d'acheter des pieds à repiquer. Alors, si vous décidez de la semer vous-même, sachez que les courgettes aiment le soleil, un sol très riche en humus et en éléments minéraux, et beaucoup d'eau. En pleine terre, vous sèmerez 3 ou 4 graines en poquet à partir du mois d'avril ou en mai, dans les régions les plus froides. Séparez vos poquets d'un bon mètre en tous sens. Sous abri, vous pouvez démarrer vos semis plus tôt que vous repiquerez au mois de mai dans votre planche préparée en les séparant d'un bon mètre. Binez, supprimez les mauvaises herbes, arrosez très régulièrement. Un petit conseil, ne plantez pas la courgette au même endroit d'une année sur l'autre et évitez également la proximité de la pomme de terre. Si vous partez sur le repiquage, sachez que c'est assez facile à cultiver dans votre potager. Le plus simple, à ce moment-là, vous repiquerez au printemps de jeunes plants que vous achèterez dans une jardinerie ou chez un professionnel. La plante adulte couvre un cercle d'environ 1 mètre de diamètre. Un pied produira des fleurs mâles qui ne donneront pas de fruits et des fleurs femelles qui, elles, seront fructifères sur une période de plusieurs mois. Une fois formé, le fruit grossit vite et passe en quelques jours de courgette, prête à consommer, agréable, tendre, à courge qui, elle, sera beaucoup plus dure et caoutchouteuse.
Donc, il faut manger la courgette jeune.
Oui, c'est une règle. C'est pourquoi il faudra bien surveiller son évolution pour pouvoir la manger au bon moment. J'ai dit que les fleurs mâles ne donnaient pas de fruits. Toutefois, elles ne sont pas tout à fait inutiles puisque il faudra les enlever pour favoriser la fructification sur les fleurs femelles, mais on pourra les consommer, farcies ou en beignet. C'est une spécialité dans les Balkans, en Italie ou dans la région niçoise. La fleur de courgette farcie est même une spécialité de la cuisine du Vietnam. Comment faire pour distinguer les fleurs mâles des fleurs femelles? Eh bien, c'est une question d'expérience. La fleur mâle se dresse plutôt sur une tige verticale fine et vigoureuse, alors que la femelle est sur une tige plus courte et plus trapue. Les courgettes existent dans de nombreuses variétés. Par exemple, il existe des couleurs différentes. La plus connue, c'est bien sûr la verte qu'on rencontre partout dans nos régions. Mais il en existe des couleurs jaunes qui sont beaucoup plus douces que la courgette verte, avec une impression de plus sucrée. Méfiez-vous toutefois, il y a une possibilité de toxicité sur certaines courgettes bâtardes, issues de croisements incontrôlés lors de la pollinisation par des abeilles avec des courges coloquintes. La toxicité provient de la cucurbitacine et se traduit au cou par une forte amertume et après ingestion par de graves diarrhées. Alors, quels sont les intérêts diététiques de la courgette? Eh bien, tout d'abord, son apport calorique est très faible, 15 kcal par 100 g. Et du coup, ce légume est souvent la star des régimes. Elle est composée également de 95% d'eau. Elle contient en revanche un taux très élevé de minéraux et d'oligo-éléments indispensables à l'organisme. Son alimentation a par exemple des effets anti-hypertenseurs bien reconnus, ce qui facilite le bon équilibre du système cardiovasculaire. Elle contient également de nombreuses vitamines ainsi que des fibres. Elle est donc une source élevée de tonicité et tient un rôle important dans le bon fonctionnement du transit intestinal.
Comme vous nous l'avez dit, c'est souvent la star des régimes et peut-être que cela un peu nuit à sa réputation du côté des gastronomes. Pourtant, on peut en faire des choses délicieuses de cette courgette.
C'est pourtant vrai. qu'elle est très négligée, justement à cause de ses caractéristiques un peu ternes. Pourtant, la courgette se mange cuite ou crue, comme se mange le concombre. Elle est très courante dans la gastronomie méditerranéenne. Elle peut se manger de multiples façons, bouillie, accompagnée d'autres légumes, comme dans la ratatouille, sautée, frite, farcie, en gratin ou en soupe. Dans la soupe, elle pourra par exemple remplacer la pomme de terre et donnera à cette soupe une texture onctueuse tout en la maintenant légère. Quelles sont les autres applications de la courgette ? Eh bien par exemple, un kilo de courgette en rondelles cuite avec 1 litre d'eau, du sel, de la muscade ou de la coriandre moulue, une pointe de crème, mixez le tout et vous aurez justement une excellente soupe onctueuse et parfumée. Et si vous remplacez l'eau par le jus de cuisson filtré des moules, ce sera absolument succulent.
J'ai lu aussi quelque part qu'à la place de la crème, on pouvait mettre du kiri ou autre vache kiri et que les enfants en étaient fort friands.
C'est tout à fait vrai, on peut prendre de la crème, mais on peut aussi mélanger un peu tous les types de fromages, le gruyère râpé, le kiri, le parmesan, tout va à la courgette. Et pour faire un délicieux gratin, vous cuisez vos courgettes en tranches à la vapeur ou au micro-ondes, puis vous les égouttez. Vous pourrez ensuite incorporer tous ces ingrédients pour obtenir un gratin que vous mettrez à cuire environ 10 minutes à four chaud.
Eh bien, merci Philippe, et à la prochaine visite de votre potager.
Oustoul, Caprobet,
Aveugoudnil.
Clarisse, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous avez 18 ans, vous êtes étudiante dans une école d'ingénieurs agroalimentaires à Rennes, et vous êtes partie aux États-Unis pendant un mois dans le cadre de vos études.
Oui,
et vous allez nous raconter ce que vous avez observé, ce qui vous a étonné, ce qui vous a amusé en matière d'alimentation, on va dire en comparant entre chez eux et chez nous.
Oui, donc je suis partie un mois aux États-Unis, dans l'état de l'Oregon en fait, et plus exactement dans la ville de Portland. Donc déjà, la première chose qui m'a marquée, c'est le fait qu'il n'y ait pas, comme en France, la cadence des trois repas, donc le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. En fait, le matin, quand on se réveillait déjà, on mangeait si on voulait, et après, c'était toute la journée, si on avait faim, on mangeait.
D'accord.
À certains moments, on se retrouvait à 17h à manger une sorte de déjeuner. Puis ensuite, on se retrouvait à 22h parce qu'on avait faim à manger notre dîner.
Parce que vous, vous appeliez un dîner.
C'est ce qu'on appelle un dîner, puisque l'alimentation est très... par rapport à chez nous, où on peut manger des bons plats,
oui.
Là-bas, ce sera plutôt un sandwich avec du fromage ou quelque chose de très simple que l'on peut manger en marchant ou en faisant toute autre chose en même temps. Ce n'est pas un moment qui est privilégié pour forcément parler et se retrouver en famille ou avec des amis.
D'accord, c'est vraiment, il faut manger pour se nourrir.
Il faut manger pour se nourrir, donc on pouvait manger en marchant, en allant faire les courses et surtout en regardant la télé, ce qui est très bizarre pour un Français, parce que quand on arrive là-bas, pour nous, le repas, c'est plutôt un moment où on se pose, on se détend. Et là, parfois, on se retrouvait devant la télé à regarder. Donc, c'est vrai que ça ne m'a pas forcément aidée à... Enfin, dans les échanges que j'ai pu avoir avec les personnes chez qui j'étais. C'est ça ce que je n'ai pas forcément trop aimé de ce point de vue.
Oui.
Mais sinon, c'était très...
Vous les avez interrogés pour savoir si c'était comme ça qu'ils vivaient, peut-être parce que vous étiez aussi avec des gens plus jeunes,
oui.
Ou est-ce que c'était comme ça déjà il y a 100 ans ou est-ce que ça a été une évolution qu'on observe aussi un petit peu en France d'ailleurs?
Oui, c'est vrai. Non,
malheureusement,
mais
qu'on
observe.
Oui,
malheureusement. C'est vrai que je ne les ai pas interrogés, mais comme ils étaient jeunes, ils avaient 24 et 25 ans, on peut dire que ça fait partie de leur rythme de vie. Je pense que chez des personnes plus âgées, le moment du repas doit être plus privilégié.
Oui.
Mais disons qu'eux, ils m'ont dit qu'ils avaient toujours eu l'habitude de manger comme ça devant la télé et de ne pas forcément consacrer beaucoup de temps à surtout faire des repas équilibrés. Ça, c'est le deuxième point qui m'a interpellée.
Voilà.
Parce que c'est vrai que les légumes que j'ai l'habitude de manger en France, je n'en ai pas forcément trouvé là-bas. Les fruits, il en est de même. Il y a beaucoup... Enfin, la vie, c'est la vie en grand. Donc, on trouve peut-être dans un rayon de 10 km... Je sais pas, peut-être 3 supermarchés, pas forcément comme ici, de la taille dont...
Vous les avez trouvés très grands, les supermarchés,
oui,
là-bas.
Énormément. Ah oui, et puis vraiment, on rentre dans un rayon, par exemple, dans le rayon de tout ce qui est sauce pour accompagner les salades ou la viande, etc. On va avoir un rayon peut-être de 10-15 mètres où il y aura que ça, mais avec 20 marques, par exemple. Et vraiment, ça m'a marqué aussi. Et également, l'incitation à la consommation, ça c'est...
c'est pire que chez nous.
Ah, c'est pire que chez nous. Hein. Ah oui, oui, l'incitation.
Par exemple,
au rayon boulangerie, tous les gâteaux, les choses comme ça, elles sont mises à portée de main.
Oui.
Et ça m'a choquée parce que ça donne vraiment envie d'aller prendre, en fait, et de manger tout de suite et d'acheter encore plus. Enfin, c'est quelque chose qui m'a aussi interpellée. Aussi, ils font beaucoup de promotions. Par exemple, on a un produit de base, un paquet de gâteaux à, je sais pas moi, 1$, et on nous dit achetez-en 10, vous en aurez pour 8$. Donc, des petites réductions, mais ce qui incite encore à acheter.
Parce que nous, on connaît ça, mais souvent, c'est des lots par 3.
Ou... Oui, tout à fait.
C'est rarement 10. Est-ce que vous avez pu observer un goût pour la cuisine? Il paraît qu'il y a de plus en plus d'Américaines qui recuisinent, ou au contraire, vous avez trouvé que les gens achetaient quand même beaucoup de choses toutes faites?
Moi, dans l'environnement dans lequel j'étais, j'ai remarqué quand même que on passait pas beaucoup de temps dans la cuisine à préparer un bon repas ou un bon dessert. Tout va vite, on est dans l'économie du temps. On ne concentre pas beaucoup d'importance à la cuisine. Ce qui fait que je ne sais pas si l'équilibre alimentaire, elle le trouve forcément, du coup.
Est-ce que ça, la jeune fille chez qui vous étiez a partagé avec vous les étonnements qu'elle, elle avait eus quand elle était venue en France? Parce qu'elle a dû en avoir aussi.
Oui, mais disons que... Comme elle était déjà venue en France, elle anticipait mes réactions sur certains points déjà. Elle n'était pas forcément étonnée quand j'étais...
Étonnée.
Voilà. Quand elle est venue en France, justement, ce qu'elle m'a dit qu'elle avait apprécié, c'est le fait d'avoir passé un dîner assis avec sa famille, justement, sa famille d'accueil. Et elle m'a dit, ça a duré 2 heures, mais j'ai pas vu le temps passer. Et elle m'a dit, j'ai pu découvrir plutôt, oui, ce que c'est qu'un repas en France. Donc elle m'a dit, ça m'a permis en plus d'échanger, je n'étais pas dans ma sphère, toute seule, et elle m'a dit, et ça m'a même parfois permis de mieux apprécier ce que je mangeais, en fait.
D'accord, d'être plus concentrée
sur plus concentrée,
ce qu'elle,
voilà,
qu'elle mangeait.
J'ai eu à leur concocter un dîner français un soir.
Est-ce que vous leur avez fait ?
Alors, en fait, la jeune fille chez qui j'étais est venue deux mois en France.
Oui.
Et la famille chez qui elle était hébergée avait fait un soir une soupe à la carotte.
Oui.
Et il semblerait que ce soit français. Donc j'ai dit,
ah bon,
pas de souci, refaisons la soupe à la carotte.
Parce que ça lui avait beaucoup plu.
Oui, ça lui avait beaucoup plu. Donc du coup, elle avait pris la recette française que lui avait donnée sa famille d'accueil.
Oui.
Nous avons fait une soupe à la carotte en entrée. Chaude. Alors il y avait de la carotte, un peu de crème et beaucoup d'épices. En fait, on a surtout joué sur les épices pour donner du goût. Et les épices, c'est comme en France. Hein. Donc on a mis du curry, du cumin, du poivre. Enfin, c'est rien d'étonnant. Non. Et ensuite, j'ai proposé de faire une quiche Lorraine.
Oui.
Donc ça, ils ont beaucoup aimé parce que ils ont vraiment pas l'habitude d'en manger et il n'y a aucun mot pour traduire quiche Lorraine, donc ils disaient quiche Lorraine. C'était très drôle et ils ont beaucoup aimé, donc là tout le monde connaît la recette de la quiche Lorraine.
Donc ça, vous avez pu l'improviser.
Oui. Peut-être. Et par contre, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est qu'on a cherché de la pâte brisée et on n'en a pas trouvé. La pâte brisée et pâte feuilletée, bon, peut-être que c'était dans le magasin dans lequel j'étais qu'il n'y en avait pas, mais elle m'a dit, la jeune fille chez qui j'étais, que c'est pas du tout commun là-bas, donc j'ai dû faire ma propre pâte brisée. Que j'ai réussi, donc ça a été.
Ce qui, pour une femme de ma génération, n'a rien de choquant, mais c'est là
qu'on voit que... Et moi qui n'ai que 18 ans, j'ai souvent connu la pâte achetée en grande
toute
surface.
Faite.
C'est pour ça, mais c'est vrai que...
Non, la pâte feuilletée, c'est vrai que ça a toujours été réservé quand même aux gens qui savent faire.
Oui,
c'est délicat.
Tout à fait.
La pâte brisée étant une pâte plus de ménagère, on dirait.
Oui, voilà.
Mais vous y êtes arrivée.
Oui, j'y suis arrivée. Et justement, après, on m'a demandé de faire un plateau de fromage pour revenir au fromage.
Oui.
Et ça a été très problématique de trouver du bon fromage, puisque je n'ai jamais trouvé de bon fromage français, justement. Je n'ai trouvé que du fromage fait pour être fondu, comme du cheddar, du provolone, ce qui n'est pas connu en France, mais oui, des fromages vraiment qui sont mis sous vide et... Je trouvais que du brie français, qu'ils n'ont pas aimé d'ailleurs, parce que le brie est quand même assez goûté et fort. Donc le plateau de fromage n'était pas forcément très réussi, ce
D'accord.
qui montre que c'est vraiment les Français qui sont les meilleurs. Et sinon, au dessert, je leur ai fait des bonnes crêpes bretonnes.
Oh là !
Et alors là, ça a fait ravage. Tout simplement parce qu'eux, ils ne connaissent que le pancakes, qui est donc beaucoup plus
épais.
Et qui n'a pas du tout le même goût, puisque leurs pancakes, en général... Ils ne le font pas forcément sucré pour pouvoir mettre et du salé et du sucré dessus. Une chose que j'ai découverte en allant là-bas. Moi, j'ai toujours connu le pancake sucré. Donc, j'avais fait des crêpes. Et alors là...
Des crêpes de froment, parce que je ne sais pas si on trouve du sarrasin.
Oui, crêpes de froment, mais justement parce que farine de sarrasin, introuvable aux États-Unis. Alors, pour eux, le stéréotype, c'est crêpes au Nutella.
Et est-ce que vous pensez qu'ils en referont?
Je pense. Je leur ai laissé la recette. Ils m'ont demandé de leur laisser la recette.
Oui.
Donc, je leur ai laissé la recette. Et une dernière chose qui m'a choquée, donc pendant le repas que j'ai pu... Justement, le repas français,
oui.
Puisque c'est un des seuls repas que j'ai passé à table vraiment assise,
oui.
C'est qu'aux États-Unis, ils n'utilisent presque pas le couteau. On mangeait avec une fourchette uniquement. Donc, on coupait avec notre fourchette.
Ce qui veut dire qu'il faut que les aliments soient suffisamment tendres.
Enfin... Ben oui, mais parfois, justement, c'était gênant.
C'était difficile. D'accord.
Mais oui, et... Et même pour nous, c'est pas forcément très poli de couper avec... Enfin, je sais pas, moi, on m'a toujours appris, tu prends ton couteau quand tu coupes. Donc du coup, c'est vrai que ça, c'est un autre point qui m'a interpellée, mais vraiment interpellée, parce que le premier jour, je me suis retrouvée avec une fourchette à me dire comment je coupe.
Parce que en fait, il n'y a pas de couteau...
Il y a des couteaux, mais je sais pas, quand ils mettent le couvert, c'est une fourchette, une assiette. Et la serviette aussi, ils ne connaissent pas forcément.
Donc... Enfin, mais... Non, mais je pense que ça traduit aussi le fait de ne pas se mettre à table.
Voilà, tout à fait.
Et peut-être aussi le type de nourriture si le couteau ne s'avère pas utile. Pourtant, les Américains mangent de la viande. Enfin,
mais
ils sont
oui.
réputés pour manger beaucoup de viande.
C'est vrai qu'après, quand j'ai mangé, on n'a pas forcément eu des gros morceaux de viande qu'on aurait dû couper. Je pense qu'en ce cas-là, ils prennent des couteaux. Mais dans la nourriture basique que j'ai
oui.
pu manger, j'ai jamais été amenée
à
avoir un couteau.
Et pour conclure, est-ce que vous avez encore une petite anecdote à nous donner pour la route ? Est-ce que vous y retournerez d'ailleurs ? Est-ce que ça vous a donné envie d'y retourner ?
Ah bah oui, déjà je n'avais pas envie de revenir, donc...
Ah, c'est... Comme quoi les repas
oui.
ne vous ont pas manqué tant que ça.
Oui. Disons que c'était peut-être l'impression de liberté qui règne là-bas par rapport à ici. Et là-bas, on se sent plus, peut-être, oui, plus libre. La vie est beaucoup plus grande, de faire ce que l'on veut, quand on veut, quand on en a l'envie.
Bon, là, c'était peut-être lié aussi au statut que vous aviez, puisque...
Oui, c'est évident, parce que je n'avais pas les contraintes horaires d'avoir un travail. Et,
Parce que votre amie, enfin, la dame chez qui vous étiez, elle doit quand même avoir un rythme de vie chargé si elle travaille et qu'elle fait tourner son entreprise par ailleurs.
Oui, c'est sûr, oui. Bon, oui, j'aimerais bien y retourner, mais comme elle a la chance de venir, elle a décroché un contrat en fait en Allemagne, dans un grand hôtel américain, pour 13 mois. Donc là, elle va travailler plutôt en tant qu'hôtesse d'accueil. Et donc du coup, finalement, je ne vais pas la revoir aux États-Unis, mais je vais la revoir en France. Et en Allemagne, et justement, ça va me faire très plaisir de la voir en France, de lui montrer justement les habitudes françaises, que ce soit alimentaire ou de la vie quotidienne.
Et vous pourrez d'ailleurs comparer avec les habitudes allemandes, qui sont elles aussi très différentes.
Et tout à fait. Elle va dans la région de Munich.
Une autre région où ce qu'on boit et ce qu'on mange a une certaine importance.
Tout à fait, oui.
Et donc là, elle va encore découvrir
une
autre culture alimentaire.
Donc ça va être très sympathique. Et pourquoi pas se revoir aux États-Unis un jour, qui sait.
Oustoul, Capobet.
Ave good nil.
Moulia bimpa, comment ça?
Bon appétit.
Bonjour Marie.
Bonjour Sophie.
Alors aujourd'hui, nous parlons des listes, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça.
Pourquoi parler des listes?
Alors les listes, l'intérêt des listes, c'est de gagner du temps et se libérer en même temps l'esprit. Parce qu'on sait que pendant toute une journée, on pense à 1000 petites choses à faire, des projets qu'on a, et ça demande beaucoup d'énergie de penser à toutes ces petites choses. Par contre, une fois les idées mises sur le papier, eh bien là on peut se concentrer sur le moment présent et gagner en efficacité car on a l'esprit tranquille. D'où l'intérêt de ces listes, et en particulier les listes pour faire les courses.
Qu'est-ce que vous nous avez trouvé
comme petit truc?
Exactement, pour faire des listes de courses.
Alors voilà, quelque chose de tout à fait simple que j'utilise depuis des années, qui sont les fameux post-it, de toutes les couleurs, rose, bleu, vert, jaune, comme on en trouve un petit peu partout. Et l'intérêt de ces différentes couleurs, c'est de prendre un post-it pour un magasin en particulier. Je suppose que vous avez différents lieux d'achat de vos courses.
Oui.
Je sais pas, un supermarché, une petite supérette, peut-être un magasin bio, enfin je ne sais pas. Et là, l'intérêt, c'est d'utiliser un post-it, une couleur par type de magasin. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que vous qui allez remplir ce petit post-it. Il faut également éduquer votre maisonnée.
Alors là, c'est pas forcément le plus facile.
En effet, parce que si on vit avec mari et enfant, l'intérêt, c'est de mettre tout le monde à contribution. Bien entendu, dès qu'on sait écrire. Et l'idée, c'est que à chaque fois qu'une personne de la famille prend le dernier paquet, par exemple, de riz, ou le dernier shampoing, ou le dernier rouleau de papier toilette, eh bien, il vient inscrire sur le post-it note correspondant. Alors, c'est sûr que c'est une petite gymnastique, mais ça se fait très bien. D'ailleurs, si ça se fait pas bien, en général, il manque le petit saucisson préféré, ou alors la tablette de chocolat qu'on aime quand on va regarder ou écouter une bonne musique, ou pour le goûter. Et ça, vous pouvez vous assurer que si c'est pas marqué sur la petite liste, moi je n'achète pas, et dans ces cas-là, c'est une très bonne façon de mettre à contribution toute la petite famille.
Je pense qu'effectivement, ça doit finir par rentrer.
Alors, l'intérêt, c'est que cette liste, en fait, elle se construit au fur et à mesure de la semaine. Donc, il ne peut pas y avoir d'oubli. Et on a toujours cet objectif de toujours un d'avance. Parce que, justement, il peut y avoir les amis à l'imprévu qui viennent, qui arrivent. Et puis, on a toujours intéressant et on n'en manque jamais.
Pourquoi des post-it et pas des petits papiers ordinaires?
Alors, l'intérêt du post-it, c'est que une fois qu'il est bien rempli et que vous partez aux courses, vous le collez sur la poignée du caddie.
Marie, un grand merci et à bientôt.
À bientôt.
לילה רב שירנו הבוקע לשמיים שובי שובי הורתנו מחודשת שבעתיים שובי שובי ונסוף כי דרכנו אין לסוף כי עוד נמשכת השרשרת כי ליבנו לב אחד מעולם ועד היד היא עוד נמשכת השרשרת